VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique et très bon début de semaine au micro Nicolas Pinault et Anne Albertson ce matin. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de notre émission.
Denis Sassou Nguesso, officiellement désigné candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle du 20 mars prochain.
Le comité national d'investiture a désigné le camarade Denis Sassou Nguesso, candidat du Parti congolais du travail.
Fin du couvre-feu au Burkina Faso malgré l'attaque de Ouagadougou.
Les élections législatives annulées en Centrafrique, en cause les irrégularités qui ont marqué le scrutin du 30 décembre.
Ces problèmes vont du chamboulement des numéros des candidats, de la non-apparition du nom de certains candidats sur le bulletin de vote, à la confusion entre les listes des circonscriptions.
Dans le reste du monde, Israël autorise la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie. Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho, le journal des sports, le Cameroun et la RDC se qualifient pour les quarts de finale du CHAN 2016 au Rwanda. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Sans surprise, à Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été investi hier soir candidat de son parti, le PCT, pour l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Candidat unique au comité d'investiture du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans au pouvoir, devrait confirmer cette désignation. Reportage de Nguela Ngosu.
Le suspense dure 3 heures et devant un millier de militants, Lucie Sautin dévoile les résultats.
Le comité national d'investiture a désigné le camarade Denis Sassou Nguesso, candidat du Parti congolais du travail, à l'élection présidentielle du 20 mars 2016.
Mais pourquoi toujours Sassou Nguesso, malgré les 32 ans accumulés au pouvoir? Jean Manoukou Kouba du bureau politique répond.
Il a tout ce qu'il faut pour rassurer, surtout en ces temps tumultueux, en ces temps très difficiles. Le monde qui nous entoure, c'est un monde de défis. Et nous voyons bien qu'il faut ne pas aller à l'aventure. Et le pays a besoin d'être rassuré parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles.
Ainsi, sans faire acte de candidature, Sassou Nguesso, 73 ans aujourd'hui, défendra le 20 mars prochain son fauteuil présidentiel. Nguela Ngoussou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
En Centrafrique, le premier tour des élections législatives du 30 décembre dernier a été annulé en raison de nombreuses irrégularités. Annonce faite hier par le président de la Cour constitutionnelle de transition, Zakari Ndoumba. Par ailleurs, les résultats du premier tour de la présidentielle ont été validés. Les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, s'affronteront bien lors du second tour. Dologuélé a obtenu près de 24% des suffrages contre 19% pour Faustin Archange Touadéra.
Fin du couvre-feu en vigueur au Burkina Faso. Il avait été instauré depuis 4 mois après la tentative ratée de putsch menée par le régiment de sécurité présidentielle. Le gouvernement burkinabé invite cependant la population à plus de vigilance après les attaques de Ouagadougou qui ont fait 30 morts le 15 janvier dernier.
Au Mali, le domicile du procureur de la République à Gao a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés dont l'un a été tué. Selon l'agence France Presse, l'homme de loi était dans sa résidence lors de cet assaut, mais en est sorti indemne.
Au Cameroun, au moins 32 personnes ont été tuées hier dans un triple attentat suicide sur le marché d'un village de l'extrême nord du pays. Ces attaques ont visé la localité de Bodo, près de la frontière avec le Nigeria. Depuis que Boko Haram a commencé à attaquer le territoire camerounais en 2013, quelques 1200 personnes ont été tuées dans ces attaques, selon un bilan publié par le gouvernement camerounais.
Et c'est dans ce contexte qu'au Sénégal, la police a annoncé hier des opérations de sécurisation pour prévenir la menace terroriste. Plus de 900 personnes ont été interpellées en grande partie pour vérification d'identité. Michel Joseph.
Selon le communiqué de la police, ces interpellations ont eu lieu dans les régions de Dakar et de Thiès vendredi, samedi et dimanche. Elles ont été motivées par des infractions, des états d'ivresse publics et des vérifications d'identité. Selon les autorités, ces interpellations ont permis de saisir également des véhicules, des motos et de la drogue. Après les attaques terroristes à Bamako et à Ouaga, Oumar Mal, directeur général de la police, a appelé ces hommes à plus de vigilance. Les régions de Dakar et de Thiès abritent beaucoup d'hôtels fréquentés par des Occidentaux. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre sénégalais de l'Intérieur, a affirmé le 21 janvier devant l'Assemblée nationale avoir ordonné aux gérants d'hôtels de sécuriser leur établissement sous peine de fermeture. Il a également annoncé la mise en place d'une cellule de lutte antiterroriste. Le Sénégal, pays réputé d'un islam tolérant, est encore épargné par les attentats djihadistes.
À Conakry, des centaines de manifestants se sont rassemblés hier en mémoire d'environ 80 personnes exécutées par pendaison. C'était il y a 45 ans à travers la Guinée durant la présidence de Sékou Touré. Et par ailleurs, après 4 ans d'exil, l'opposant Baouri est rentré hier en Guinée. Il avait été condamné par contumace dans l'attaque de la résidence du président Alpha Condé. C'était en 2011. Mais le président Condé, depuis sa réélection, a rencontré deux fois cet opposant pendant son exil.
Ouverture hier du procès des assassins présumés de Robert Guéhi, ex-chef de la junte militaire en Côte d'Ivoire, tué en 2002. Il avait dirigé la junte après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Henri Konan Bédié. Jacques Aristide, hier, le premier accusé, l'adjudant Kouadio, a été interrogé sur les faits.
J'ai arrêté le général Robert Guéhi, mais je ne suis pas son assassin. C'est ce qu'a déclaré à la barre le prévenu Kouadio Kouadio, dit Gino, accusé de complicité d'assassinat. L'adjudant Kouadio affirme avoir remis le général Guéhi à Dogbo Blé, alors lieutenant-colonel. Ce n'est que plus tard, au journal télévisé de 13h, que j'ai appris la mort du général Guéhi, indique l'adjudant tel que le rapporte l'AFP. Le procès, reporté à deux reprises, a finalement abordé le fond hier, après avoir évacué les exceptions juridiques soulevées par la défense qui estimait notamment que les faits étaient prescrits ou amnistiés. 19 personnes, dont le général Dogbo Blé, un ex-homme fort du régime de Laurent Gbagbo, et Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, étaient dans le box des accusés du tribunal militaire à Abidjan pour être jugés pour assassinat et complicité d'assassinat.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a invité hier les deux parties en conflit au Soudan du Sud à résoudre leurs divergences. Le Soudan du Sud avait jusqu'au 22 janvier pour former un gouvernement d'union nationale, mais les combats se poursuivent. Maëlys Segal.
Depuis le début de la guerre civile en 2013, les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar se livrent un combat meurtrier. Les rebelles rejettent la création de nouvelles provinces par le président Salva Kiir. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, les exhorte à former rapidement un gouvernement d'union nationale, étape essentielle pour appliquer l'accord de paix. Cet accord, signé le 26 août, était censé mettre fin à la guerre civile. Monsieur Ban Ki-moon se dit inquiet de cet échec et invite l'Union africaine à saisir l'occasion du prochain sommet pour aider à sortir de l'impasse. L'ONU, a-t-il ajouté, continuera de tout faire pour soutenir la population du Soudan du Sud, soumise à des violations des droits de l'homme inimaginables.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, ce mardi matin, les pourparlers de paix entre l'opposition syrienne et le régime de Damas, qui devait initialement commencer hier à Genève, débuteront vendredi sous l'égide de l'ONU. Ce report est dû à un blocage sur la composition des délégations, a expliqué Stéphane de Mistura, l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie.
Et hier, sur le terrain, au moins 23 personnes, la plupart des combattants du groupe rebelle islamiste Ahrar al-Sham, ont été tués dans un attentat au camion piégé dans la ville d'Alep. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, selon l'Observatoire syrien. Rien des droits de l'homme. Je vous rappelle que depuis le début du conflit, c'était en mars 2011, 260 000 personnes sont mortes en Syrie et des millions d'autres ont pris la fuite.
Au Proche-Orient, le ministère de la Défense israélien a approuvé des plans pour la construction de 153 nouveaux logements dans des colonies de Cisjordanie occupées. C'est la première fois depuis environ un an et demi que le gouvernement approuve des plans pour de nouvelles constructions en Cisjordanie, selon l'ONG La Paix Maintenant.
En Libye, le Parlement reconnu par la communauté internationale a rejeté ce lundi le gouvernement d'union nationale formé il y a tout juste une semaine et ce sous la pression de la communauté internationale pour mettre fin au chaos dans ce pays. Les explications de Claire Morin-Gibourg.
Les espoirs d'une sortie de crise en Libye se sont encore éloignés. Les députés du Parlement reconnu internationalement ont refusé d'accorder leur confiance à ce gouvernement d'union. Selon le député Essa Al-Haribi, 90 des 140 députés présents l'ont rejeté. Un vote positif était crucial pour qu'entre en fonction cette équipe de 32 membres, conduite par l'homme d'affaires tripolitain Fayez El-Sarraj. De profondes divergences sont apparues au sein des deux gouvernements rivaux après des mois de négociations menées par l'ONU. La communauté internationale comptait sur cette autorité pour lutter plus efficacement contre le groupe État islamique et l'afflux de migrants en Europe. Le I a profité du vide du pouvoir pour prendre le contrôle de Sirte et de ses environs. Le groupe djihadiste a récemment lancé une offensive vers la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers.
Enfin, retour aux États-Unis. Ce mardi, le gouvernement fédéral est à nouveau fermé. Plus de 48 heures après le passage de la tempête de neige Jonas, on continue de déneiger avec ardeur sur une grande partie de la côte est américaine. Hier, plus de 1500 vols ont été annulés dans les aéroports de Washington, Baltimore et New York.
Ainsi s'achève ce journal sur VOA Afrique. On retrouve tout de suite la Minute Éco, présentée ce matin par Anne Albertson.
Au Nigeria, une importante agence de recrutement a exhorté le gouvernement à multiplier les programmes de formation et de création d'emplois pour les diplômés. Un sondage publié à Lagos ce lundi révèle que 45% des plus qualifiés étaient au chômage. Avec un taux officiel de 9,9%, le chômage a longtemps été un sujet de préoccupation pour les autorités, dont le pays a été frappé de plein fouet par la chute des cours du pétrole depuis mi-2014. Cette situation a affaibli la monnaie nationale, le Naira, et a fait diminuer les investissements. Les cours du pétrole sont nettement retombés lundi, sans pour autant effacer totalement leur rebond massif de la précédente séance, dans un marché qui subissait le coup de nouveaux éléments sur l'excès d'offres et une demande mondiale incertaine. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, basée à Madrid, envisage le triple du nombre de touristes étrangers à destination du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les chiffres devraient atteindre 195 millions en 2030. Cependant, l'amélioration de la situation sécuritaire et l'image de la région constituent un grand défi. En revanche, le nombre de touristes chinois a cependant grimpé en flèche l'année dernière en Égypte, et ce, malgré les attentats terroristes. À l'instar de l'Égypte, le Maroc s'efforce de développer son tourisme interne, qui représente actuellement 33%, pour compenser les fluctuations des arrivées d'étrangers.
Merci Anne, et nous retrouvons la page des sports. Pour en parler ce matin avec nous, Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Nicolas.
Eric, on commence par du football, le championnat d'Afrique des Nations 2016, le CHAN, les résultats de la troisième et dernière journée du groupe B.
Le Cameroun a battu le Congo par 3-1, tandis que l'Angola a sauvé l'honneur en dominant l'Éthiopie par 2-1. Conséquence, le Cameroun rejoint la Côte d'Ivoire en quart de finale prévu le 30 prochain à Houillé. Le Rwanda, pays hôte, croisera le fer avec la RDC à Kigali le même jour.
Parlons transfert, Moussa Marega qui rejoint le FC Porto.
Oui, l'international malien a signé un contrat de 4 ans et demi pour 40 millions d'euros. Moussa Marega, qui a aussi la nationalité française, jouait dans un club portugais, Maritimo.
Et transfert côté justice en Espagne, l'Atlético Madrid qui fait appel de son interdiction de recruter.
L'Atlético Madrid, tout comme le Real, ont été accusés de violer la réglementation sur le transfert des mineurs imposée par la FIFA. Nico, l'Atlético a soumis hier donc le recours contre la décision de l'interdiction de recrutement pendant un an. C'est une décision prise par la commission de discipline de la FIFA. Et le Real a bien sûr emboîté le pas à son rival merengue.
Allez, on reparle de la FIFA. L'élection, c'est pour bientôt. Et l'Amérique centrale qui soutient le candidat Infantino.
Exactement, Nico. Le comité exécutif de l'Union d'Amérique centrale de football a rendu publique ses décisions hier après sa réunion à Panama. Les 7 fédérations membres ont toutes convenu d'appuyer la candidature à la présidence de la FIFA de M. Gianni Infantino.
Eric, évoquons cet ex-joueur de cricket sud-africain suspendu 20 ans pour avoir truqué des matchs.
C'est Gholam Bodi, mais son dernier match en championnat remonte à janvier 2015. L'international sud-africain a reconnu avoir pris part à des matchs truqués dans le championnat national. Si Bodi ne commet pas d'autres délits et participe à un programme d'éducation contre la corruption, Nico, sa suspension sera ramenée à 15 ans. Enfin, avec toi Nicolas, les résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Oui, LeBron James et les Cavaliers de Cleveland qui dominent Minnesota 114-107. Boston, facile contre Washington 116-91. Miami domine Chicago 89-84. Memphis qui bat Orlando 108-102. Enfin, sur le fil, la Nouvelle-Orléans battue par Houston 111-112. C'était le journal des sports présenté par Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. En Centrafrique, nous vous en parlions dans le journal, la Cour constitutionnelle de transition a annoncé l'annulation des élections législatives sur toute l'étendue du territoire. Cette décision intervient en raison de nombreuses irrégularités constatées dans le déroulement du premier tour. Félix Yepassi-Zembo a joint pour plus d'explications l'un de nos correspondants à Bangui, Thierry Bomba.
Cette décision se justifie par le fait que des carences et difficultés ont émaillé le processus des législatives. Ces problèmes vont du chamboulement des numéros des candidats, de la non-apparition du nom de certains candidats sur le bulletin de vote, à la confusion entre les listes des circonscriptions, jusqu'à l'indisponibilité des bulletins de vote dans certaines circonscriptions de Bangui et des provinces. C'est au vu de tous ces problèmes et de la jonction des requêtes des candidats lésés par la décision de l'autorité nationale des élections que la Cour constitutionnelle de transition a ordonné la réorganisation des législatives sur toute l'étendue du territoire centrafricain.
Mais qu'en est-il des candidats qui ont obtenu la majorité ou du moins qui ont été élus au premier tour?
Il y avait 1619 candidats qui s'étaient présentés aux législatives, dont 22 sont passés au premier tour. Malheureusement, la décision de la Cour constitutionnelle ordonne la réorganisation des législatives, ce qui veut dire que la décision de l'ANE qui donnait victoire aux 22 candidats sont à revoir, ce qui signifie que ces 22 candidats doivent s'aligner car la décision de la Cour constitutionnelle de transition est sans recours.
Quel est l'état d'esprit de la population ce mois après la proclamation de ces résultats?
Pour certains, c'est un sentiment de soulagement car le désordre constaté dans l'organisation de ces législatives a été si grotesque, tandis que d'autres qualifient cela de contrariété entre la décision 003 qui ordonna l'envoi de Georges Boligile et Foussa Archange Touadéra au deuxième tour, car ils disent que ce sont les mêmes problèmes qui ont émaillé le processus des législatives qui ont fait que 5 candidats à la présidentielle avaient déposé leur requête auprès de la Cour constitutionnelle. En tout cas, chacun interprète la décision de la Cour constitutionnelle à sa manière et selon les circonstances.
Le correspondant VOA Africa Bangui, Thierry Bomba.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Tchad, une mission du groupe parlementaire Les Démocrates s'est rendue le week-end dernier à Ati, chef-lieu de la région du Bata situé au centre du pays. La mission avait pour objectif de se rendre sur le site d'exploitation artisanale de l'or découvert par les curieux de la région afin de recenser les difficultés que rencontrent les populations suite à l'interdiction formelle d'exploitation par le gouvernement. Le point avec le correspondant VOA Afrique au Tchad, André Kodmajingar.
Cette mission parlementaire n'a pas pu se rendre sur le site d'exploitation du gisement de l'or qui a occasionné un afflux massif de Tchadiens et autres nationalités dans la région. Raison évoquée par les autorités régionales pour interdire l'accès dans les champs d'or et que la zone est sous haute surveillance des forces de troisième degré déployées sur le terrain et qui tirent sur tout ce qui bouge et ne reçoivent l'ordre que de plus haute hiérarchie. Toutefois, la mission a pris le risque d'aller à la rencontre de la population du village Alifa dans le département de Bata Ouest situé aux alentours du site. Ici, c'est la désolation. Prise en otage par les forces de l'ordre, cette population pensait que les membres de la délégation allaient trouver une solution à leur souffrance. La liberté de circuler dans la zone, bref, le respect des droits de l'homme. Le gouverneur de la région du Bata, Kelly Abdallah Lebin, ne confirme pas que ce qui attire des milliers de personnes dans sa circonscription est de l'or, puisque rien n'est encore confirmé par les spécialistes en métaux. Il reconnaît par ailleurs qu'il y a des morts d'hommes, mais que ces victimes ne sont pas tuées par balles.
Jusqu'ici, on a trouvé des métals de la couleur jaunâtre. Je ne sais pas si c'est de l'or ou bien de cuivre ou autre. Il y a eu un millier d'hommes, plus de 25 000 à 30 000. Dieu merci, il y a eu que 3 dévorés par des hyènes. On a trouvé les mains, les pieds et la tête. Les connaisseurs disent que c'est le lion qui ne mange pas le reste. À part ça, il n'y a pas eu d'autres dégâts, humains ni matériels.
Pour les parents des victimes, leurs proches ont été bel et bien abattus par les militaires.
Mes frères se sont remorqués sur une moto et les militaires leur ont tiré dessus à bout portant. Celui qui est derrière la moto a été tué et le conducteur a fui pour nous alerter. Nous avons acheté de carburant au service de sécurité qui nous ont ramenés sur les lieux. Effectivement, nous avons trouvé le corps des frères sans vie et nous l'avons enterré en présence des services de sécurité. Plusieurs personnes sont portées disparues et nous avons peur d'aller les chercher en brousse au risque d'être abattus. Leur cadavre est en train d'être dévoré par les animaux sauvages.
Selon nos informations, aucun engin de 2 et à 4 roues ne peut circuler dans la zone. C'est ainsi que plus de 60 motos, des appareils téléphones portables et autres matériels ont été arrachés et ramassés dans le village Alaï Ibza. André Koduma Dingar de retour d'Ati dans la région du Bata pour La Voix de l'Amérique.
Au Bénin, le dernier rapport de l'ONU sur la surpopulation carcérale n'a pas surpris. Cette situation est décriée depuis longtemps par les organisations béninoises de défense des droits de l'homme. Reportage de Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Prenons par exemple la prison civile de Cotonou. Construite dans les années 60, elle était prévue pour héberger 400 personnes. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes y sont détenues dans des conditions à la limite choquantes. Emman Metton, membre d'une association de lutte pour le respect des droits de l'homme, s'échine depuis plus de 10 ans à militer pour que cesse la surpopulation carcérale.
Les gens sont entassés comme dans une boîte de sardines. Et quand vous voyez la manière dont les gens dorment, je pense que cela doit faire réfléchir. Mais malheureusement, nos autorités n'en font pas encore une priorité et c'est dommage.
Des dortoirs de soins 15 mètres carrés construits pour abriter 40 personnes en accueillent au moins 350. Alain-François Adirou, ancien ministre, sous le général Mathieu Kérékou, après 1011 jours de détention préventive, y fera allusion dans son roman « Au nom de mon pays, je pardonne ». Ce prisonnier, suivi du régisseur de la prison, étale les difficultés rencontrées.
Nous n'avons pas d'abri de hangar qui pourrait nous prévenir un peu des intempéries, de la pluie, du soleil, tout ça. La maison est construite pour contenir 300 personnes et à la date d'aujourd'hui, nous faisons environ 727 personnes.
Les agents de sécurité en service à la prison n'ont reçu aucune formation spéciale en la matière. Quant au personnel médical, il s'agit d'un déficit plutôt qualitatif. En effet, la prison n'a pas un médecin. Quelques infirmiers se relaient. Les normes exigent pourtant qu'à partir de 200 personnes cantonnées, l'on nécessite la présence d'un médecin. Un médecin inhérent qui visiterait la prison deux fois par semaine serait largement suffisant.
Les conditions n'ont toujours pas changé. Au contraire, elles se sont empirées, selon Emman Metton de l'ONG Bénin Conso et Droits de l'Homme.
Les faux sceptiques, voilà des choses qui sont quotidiennement remplies. Mais pour le curage, ça pose problème au point où parfois il y a débordement des matières fécales. Quand vous prenez les gilets que les gens portent, le même gilet, on peut le faire porter à plusieurs personnes. Lorsque vous n'avez pas les moyens, c'est que vous allez dormir là où les conditions sont vraiment, je dirais, les plus désagréables possibles. On vous fait subir des choses pas possibles pour vous amener forcément à sortir un peu d'argent pour pouvoir trouver des conditions un peu vivables.
Et ce qui paraît plus terrible est le fait qu'il y a plus de personnes en détention préventive que de condamnées. Depuis la publication des recommandations de l'ONU, pas une seule déclaration pour expliquer les stratégies à adopter pour mettre fin à cette torture morale et psychologique exercée sur des personnes par les gouvernants avec la complicité de la société de par son silence. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Direction la Guinée dans notre émission pour parler de la vente des médicaments qui est exclusivement réservée aux pharmaciens. Mais le marché des médicaments attire d'autres acteurs et pas toujours des spécialistes, d'où cette lutte engagée depuis quelques semaines par les gendarmes guinéens contre la circulation des faux médicaments. Le reportage à Conakry de notre correspondant Zakaria Camara.
Trois Guinéennes condamnées il y a quelques jours pour délit d'exercice illégal de la pharmacie à un an de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Ces dames avaient été interpellées par les agents de la gendarmerie guinéenne. Une lutte contre les faux médicaments qui trouve un soutien des Guinéens.
Vous avez mal à la tête, on vous dit de prendre des paracétamol et vous prenez de la farine. Est-ce que vous pouvez guérir avec ça?
C'est des poisons qu'on fabrique. Le dosage des produits ne sont pas connus par les vendeuses. Donc, laisser la tâche aux professionnels, aux pharmaciens.
C'est des personnes qui ne sont pas du tout expertes, qui sont en train de manipuler des poisons. Et du moment que le médicament, même s'il est surdosé, il est pris de façon inadéquate, ça peut poser du danger à l'organisme humain.
Danger contre lequel se dressent les hommes du secrétaire à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le colonel Moussa Tchibourou Camara n'entend pas baisser les bras.
Tout faux médicament est lutté dans le cadre du crime organisé, est lutté dans le cadre de la drogue, parce que tout faux médicament est une drogue, au vu de la loi. Donc la mission continue de belle. Tu vas beau faire, il y a les gens qui pensent que tu es en train de lutter contre leur bien, alors que ce bien-là est en train de soit tuer la population. Les temps ont changé, faisons face à l'objectif et à l'avenir pour que l'objectif assigné par le président de la République pour santé pour tous soit vraiment un objectif réalisable.
Cette campagne de lutte contre les faux médicaments est menée en collaboration avec l'Ordre national des pharmaciens, dont les membres saluent l'initiative.
La vente illicite des produits pharmaceutiques commence à prendre une ampleur très inquiétante. Les produits pharmaceutiques ne doivent pas être à l'apanage de tout le monde. C'est seulement les pharmaciens qui sont habilités à vendre les produits pharmaceutiques.
Il faudrait que les gens chassent. Pourquoi cette lutte est menée? Ce n'est pas seulement dans l'intérêt du personnel de la santé, mais c'est aussi dans l'intérêt de la population.
Le colonel Tchibourou a lancé une autre lutte, celle contre les cliniques clandestines. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
À Lomé, une délégation de la Commission de l'Union africaine a séjourné. Elle a rencontré entre autres les autorités togolaises, le secteur privé et la société civile. Les discussions ont tourné autour du plan de développement de l'Afrique Agenda 2063. Le point avec notre correspondante Kay Lawson.
La domestication du plan de transformation structurelle de l'Afrique, dénommé Agenda 2063, fait l'objet d'une tournée sur le continent. Les experts de l'Union africaine sillonnent les pays afin de mieux expliquer le concept et recevoir l'adhésion de toutes les couches sociales. Jacques Mukwende, chef division mobilisation des ressources au département planification stratégique de la Commission de l'Union africaine.
L'Agenda 63, c'est en fait un plan continental de transformation et socio-économique qui en fait émane des aspirations de citoyens africains. C'est des initiatives qui sont venues de la base. Cet agenda 63 a été élaboré à partir de consultations que nous avons eu à faire au niveau de toutes les nations et au niveau de toutes les couches sociales. La finalité, c'est la prospérité du continent, la paix dans le continent, l'intégration du continent et surtout le rôle que doit jouer le continent au niveau mondial.
Conçu à l'occasion des 50 ans de l'Organisation panafricaine en 2013, l'agenda 2063 se base sur 7 aspirations et 12 programmes pour faire de l'Afrique un pôle dynamique sur la scène mondiale. Oumar Seck est un expert de l'Union africaine.
L'agenda, c'est ces 7 aspirations, développement durable, intégration régionale, marché et infrastructure, bonne gouvernance, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la place de l'Afrique dans le monde, santé, éducation, plus les 12 projets du continent, le programme de train à grande vitesse du continent, le grand projet INGA, qui peut fournir l'énergie à tout le continent, plus faire exporter l'énergie.
Pour arriver à l'Afrique que veulent les panafricanistes en 2063, il faudrait que le continent relève le défi du développement durable en atteignant les ODD à l'horizon 2030. La réduction de la pauvreté ne peut être effective que dans un contexte de marché commun, soutient Foudou Boupessi de l'entreprise sociale de marché commun.
Le marché commun, c'est en fait l'outil de développement durable pour faire en sorte que les 17 objectifs de développement durable puissent être réalisés. Nous disposons d'une plateforme, un outil à la disposition de plusieurs acteurs. Chacun l'utilise dans son domaine d'activité. Sachant que nous sommes sur un marché commun où justement il n'y a pas le problème de mévente, les problèmes de consommateurs qui manquent parce que c'est un marché qui garantit le consommateur.
La première phase de ce plan qui s'étend sur un demi-siècle est mise en œuvre entre 2013 et 2023. Pour l'Union africaine, la stratégie pour une appropriation de l'agenda est son inclusion dans les programmes de planification nationale. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pinault à la présentation. On va vous souhaiter une excellente journée à tous. On va saluer tous ceux qui nous écoutent du côté de Bujumbura, Ouagadougou et Dakar, nos émetteurs FM, et bientôt à Niamey au Niger. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et notre site internet voafrique.com.